Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons. Il comptait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut. Il louait le soleil et toutes ses merveilles.
Amis auditeurs, paix et tout bien, Nicole à ce micro. Je vous retrouve avec joie pour notre quart d'heure franciscain. Nous nous sommes mis à l'école de Saint-François d'Assise, le frère universel, et nous redécouvrons les étapes de sa conversion grâce à un ouvrage de Julien Green par les éditions Saint-Léger. Donc nous aurons en audio ce très bel ouvrage de cet historien qui, très scrupuleux, a bien travailler en quelque sorte en s'appuyant sur les sources franciscaines, les biographes de l'époque, et pour nous montrer, nous révéler comment ce saint a rayonné, ce petit pauvre Poverello, cet homme simple, humble, mais tellement enthousiaste, amoureux du Christ, comment il a pu bouleverser son siècle et bouleverser tous les siècles depuis, puisque aujourd'hui encore, François reste bien vivant et marque l'histoire de l'Église, l'histoire des conversions, de cœurs de conversion. Alors, sans plus tarder, nous reprenons notre itinéraire avec François. Le voilà donc qui a décidé de tout quitter, de s'en remettre totalement à Dieu et d'écouter ce que la voix lui disait, de réparer les églises. Bonne écoute.
À la maison, suite. Bien différente était l'atmosphère chez Bernardone, qui rageait dans son cœur du matin au soir, tantôt dans un sombre silence, tantôt se libérant dans de brusques accès d'indignation. Avoir recouvré son argent représentait une maigre consolation dans le désastre familial. Son fils, en qui il plaçait tant d'espoir, était devenu un objet de scandale, la risée de toute la ville. Plus irritant que tout le reste, cet apitoiement de quelques bonnes âmes, et pour mettre le comble à l'exaspération du drapier, ces murmures qui commençaient à courir sur les vertus de ce garnement, de ce vieux garnement, car François n'était pas autre chose. À 25 ans bien sonnés, il se conduisait comme un gamin qui a perdu la tête. Son jeune frère Angelo voyait la situation avec plus de calme et beaucoup d'ironie. Il était goguenard. Pour lui, François demeurait l'hurluberlu de la famille, le fêtard prétendu converti qui jouait maintenant au saint. Aussi se réservait-il, un jour qu'il le croiserait dans la rue ou ailleurs, de lui décocher une petite flèche bien acérée pour crever cette baudruche. Rien de bien méchant en apparence, une petite phrase innocente de style dévot, mais meurtrière. Et au fond, il n'avait pas fait une mauvaise opération, puisque l'évincement de son frère aîné l'avait changé en héritier à part entière. Quant à la mère, elle se lamentait. « C'est l'affaire des femmes de pleurnicher, selon Bernardone. » La bonne Pica ne s'en privait pas. Un peu agaçant, ses sanglots étouffés. Mais il fallait s'y attendre. Rencontrer François dans les rues était inévitable. Bernardone n'y manqua pas. On voudrait croire qu'il eut un mouvement du cœur aussi brusque qu'inattendu. Ce fut tout le contraire. Dès qu'il vit son fils, il le maudit avec force. On ne sait ce que dit alors François. Peut-être garda-t-il le silence et passa, mais l'incident se renouvela à plusieurs reprises. François, vêtu comme un pauvre, recevait la malédiction paternelle en présence de passants scandalisés, et il devait en souffrir, car il finit par imaginer un moyen d'atténuer la tristesse de cette épreuve. Un mendiant nommé Albert, choisi pour son aspect vénérable, fut chargé pour lui, moyennant la moitié des aumônes qu'il recevrait, de l'adopter pour fils, de l'accompagner dans ses courses à travers la ville. Et chaque fois qu'il se trouvait face au drapier, et que celui-ci proférait sa malédiction habituelle, Albert faisait un signe de croix sur son fils adoptif et lui donnait sa bénédiction, détournant ainsi la mauvaise parole du père dénaturé. François disait alors à Bernardone: Crois-tu que Dieu ne soit pas capable de me donner un père qui me bénisse pour annuler tes imprécations? Cette scène étrange surprenait les assisiates. Elle les touchait aussi. Elle ne touchait pas du tout Angelo, qui guettait le moment de décocher son trait empoisonné. L'occasion, il la trouva par un matin d'hiver glacial, où, vêtu de haillons, François priait en grelottant. Assez fort pour être entendu, son frère dit alors à un voisin: Demande donc à François de te vendre pour un sou de sa sueur. La réponse vint sans tarder, en français, joyeuse, accompagnée d'un sourire. Je l'ai déjà vendu au Seigneur. La voie étroite. François savait bien qu'on ne va pas à Dieu par les consolations, le chemin court étant la souffrance qui mène à lui tout droit. Cette joie surnaturelle qu'il habitait voisinait avec la maladie et des mortifications intérieures reçues comme des grâces, non sans batailler quelquefois. Le vieil homme n'en finissait pas de mourir. L'amour-propre surtout avait la vie dure. Un jour que François allait mendier de l'huile pour la petite église de San Damiano, il se trouva devant une maison et s'apprêtait à frapper à la porte quand, par une fenêtre entr'ouverte, il vit non sans émotion un groupe d'hommes parmi lesquels il reconnut d'anciens compagnons de fête. Pour eux, la fête continue, sans lui. Il chante, il danse et s'apprête à jouer après avoir festoyé. Il voit tout cela. Il regarde. Le flot des souvenirs envahit l'âme avec une force extraordinaire, surtout si la musique s'en mêle. Pris de honte, il n'ose entrer. Et le rouge au front, il s'éloigne. Cette minute de faiblesse nous rapproche de lui. Dans la cruelle incertitude qui suivit, il s'accusa durement de lâcheté et, revenant sur ses pas, courut jusqu'à cette maison. Là, avec une humilité profonde, il fit un aveu public de sa faute. On imagine la scène, la stupeur des passants qui n'y comprenaient rien, et jusqu'au battement de cœur de ce petit homme en haillons qui luttait vaillamment lui-même contre le démon de l'orgueil. Lorsqu'il se fut ressaisi, il pénétra chez les joueurs et présenta sa requête en français. Pourquoi en français? Parce que c'était François. Et qu'avec ses compagnons d'hier, il parlait français. On l'écouta en silence. Il dut y avoir un moment de gêne extrême. Ce mendiant, ils n'en croyaient pas leurs yeux, c'était le prince de la jeunesse, le Dominus d'antan qui demandait de l'huile pour l'amour de Dieu. Et comment la lui refuser, son huile? Mais aussi, que dire au singulier personnage dont la présence remuait en eux un monde de souvenirs. Son charme agissait encore sous les haillons. Il prit l'huile qu'on lui donna au bout d'un instant, et avec sa courtoisie habituelle, il remercia et se retira. Celui qui demande des choses difficiles donne en même temps le courage de les accomplir. Le retentissement de la grande scène devant l'évêque et la foule d'assises n'était pas prêt de s'oublier. Ce spectaculaire adieu au bien de ce monde faisait du fils Bernardone un être à part. On le guettait aux actes. Et que faisait-il? Il parcourait la ville avec une écuelle de mendiants et chantait les louanges du Seigneur. D'autres gagnaient leur pain quotidien en travaillant dur. Lui demandait humblement qu'on lui donnât le sien. Et de nouveau, on se mettait à rire. Et Piquetout à sourire, car dans le rire, il peut y avoir la gaieté de l'indulgence, mais dans le sourire, entre le dédain. Son habit, son bâton, ses sandales, cette ceinture autour des reins, le désignaient à l'ironie des âmes sceptiques. Il avait bien sûr réparé les murs d'une petite église, mais non tout seul, l'aide lui était venue. Bonne intention et bon travail. À présent, on se demandait où tout cela le menait. Lui aussi peut-être. Pourquoi ne pas rendre la vie à une autre église aussi mal en point que San Damiano? Elle ne manquait pas dans la région. Il résolut de les prendre l'une après l'autre, comme un médecin va de malade en malade. La première fut celle de San Pietro, près des remparts, modeste, encore debout. Avait-il des dons d'architecte? Certains le croient. Il y a souvent un architecte chez un Italien. Le jour vint, où dans une forêt de chênes, il se trouva devant un vieux sanctuaire de 7 mètres sur 4, déserté, car ne servant que pour les forestiers et les vignerons. C'était une chapelle appartenant aux bénédictins sous le vocable de Notre-Dame des Anges, devenue plus tard Notre-Dame de la Portioncule, c'est-à-dire du petit espace, ou encore du petit bénéfice, car c'était un oratoire de peu de fidèles. Dieu, qui l'attendait partout, l'attendait là pour lui parler d'une façon précise. Mais François savait-il qu'il posait le pied sur le seuil de la gloire humaine dont il ne voulait plus? Avec son énergie habituelle, il se mit à l'œuvre, et par dévotion pour la Sainte Vierge, il décida de vivre en ermite dans ce lieu même où on la vénérait. Les travaux s'achevaient. Un moine du Mont Subasio venait, à la prière de François, dire la messe de bonne heure. Un matin, le jour de la Saint-Mathias, il lui lut ce passage de l'Évangile où Jésus envoie ses apôtres en prédication et leur donne une règle de conduite. Ni or, ni argent, ni monnaie. Ils ne doivent emporter pour la route ni bourse, ni besace, ni pain, ni bâton. Ils ne doivent avoir ni chaussures, ni deux tuniques. Ils doivent prêcher le royaume de Dieu. Ces paroles firent tressaillir François comme si une voix fût tombée du ciel dans son oreille. La messe terminée, il demanda au prêtre de lui expliquer le discours de Jésus point par point. Et à mesure que s'éclairait le sens de ces phrases brèves et décisives, il se sentit enveloppé de joie. Le message attendu depuis si longtemps lui parvenait enfin. Et il eut ce cri. « Voilà ce que je veux, ce que toute mon âme désire !» Du coup, il jeta son bâton, ses sandales, son manteau, sa ceinture de cuir. L'Évangile se révélait à lui dans son éblouissante lumière. Soudain, il devenait le disciple du Christ. Ne le connaissait-il donc pas, l'Évangile? Que de fois il l'avait entendu depuis son enfance. Mais le livre a ceci de particulier qu'on peut l'entendre tout au long des années et qu'il arrive une minute où il sort de ses pages une voix silencieuse, mais assourdissante, et qu'on ne pourra jamais faire taire.
Frère François de Julien Green par Saint-Léger Productions. Nous voilà amis auditeurs dans notre émission Pax et Bonum. Nous avançons, vous voyez, petit à petit, nous allons voir comment le Seigneur prend aussi et pédagogue et va prendre aussi son temps avec François pour lui indiquer exactement quelle est sa mission. Rendez-vous au prochain épisode.
Le Seigneur, mon Seigneur.